Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Après le Covid, rien ne sera jamais plus comme avant. Phrase énigmatique pour la plupart d'entre nous lorsqu'elle a été entendue au printemps de cette année. En effet, comment une épidémie virale peut-elle changer le monde ? Cette épidémie, qui n'a pas fait plus de victimes qu'une bonne grippe, n'est pas à comparer avec la peste noire au milieu du XIVe siècle, qui provoqua la mort de 30% en moyenne de la population européenne. À cette époque, la vie a continué comme avant. Il semble donc que cette épidémie n'est qu'un moyen pour atteindre un but qui n'a rien à voir avec la santé de la population. Quel est ce but? Ce but est résumé dans un monument de granit érigé en 1980 en Géorgie, aux USA, sur lequel sont écrits en 8 langues les 10 commandements pour une planète Terre harmonieuse. Le but est gravé en tête de ces 10 commandements. Maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'habitants en perpétuel équilibre avec la nature. Les « sages » entre guillemets, de ce nouvel âge de l'humanité se sont exprimés de plus en plus clairement depuis. Le commandant Jacques-Yves Cousteau, le célèbre océanographe français, affirmait en 1991 dans un entretien du courrier de l'UNESCO. C'est terrible à dire. Il faut que la population mondiale se stabilise. Et pour cela, il faudrait éliminer 350 000 hommes par jour. C'est si horrible à dire qu'il ne faut même pas le dire. Les années passent. En 2006, le professeur Eric Pianca, lors d'une conférence à l'Académie des sciences du Texas, affirma que les maladies sont le moyen le plus efficace et le plus rapide pour diminuer la population mondiale. Il présenta le virus Ebola, qui, répandu par voie aérienne, permettrait de tuer 90% de la population mondiale. En 2007, Nicolas Rockefeller confiait dans un entretien avec son ami Aaron Russo qu'ils envisageaient de réduire la population mondiale de moitié et ils étudiaient les moyens d'y arriver. Ces sages vont se réunir à Davos ensuite en Suisse en janvier prochain pour préparer les 50 prochaines années. Le Covid, dit le président de cette assemblée de sages, est une occasion de repenser, réinventer et remettre notre monde à zéro. Le Covid est donc l'occasion de mettre en place cette nouvelle organisation mondiale de l'humanité. Dieu avait dit à Adam et Ève, « Multipliez-vous, remplissez la terre. » Les sages mondialistes nous disent, « Dépeuplez la terre pour vivre en harmonie avec la nature. » Notre Seigneur nous enseigne que Satan est le père du mensonge et qu'il est homicide dès l'origine. On le reconnaît donc bien, il est l'inspirateur de ce nouvel ordre mondial, mensonge, homicide, qui est prêt à supprimer des milliards de vies humaines, à interdire les messes, à persécuter ceux qui s'opposeront à leur plan. Alors, sommes-nous donc entrés dans une ère où vont fleurir les martyrs ? C'est une bonne question à nous poser et étudier un petit peu, qu'est-ce que le martyr ? Saint Thomas d'Aquin le définit ainsi. c'est l'attachement inébranlable à la vérité et à la justice, malgré les assauts des persécuteurs. Le cardinal Cajetan donne des précisions sur les conditions du martyr. Puisque le martyr est un témoignage en faveur de la foi et un témoignage par le don de la vie, il doit remplir les quatre conditions suivantes. Il doit être un témoignage public. Deuxièmement, on doit subir la mort. Cela relève de la vertu de force. Troisièmement, on subit la mort en affirmant un dogme, une vérité de foi. Cela relève de la vertu de foi. Et quatrièmement, en rendant ainsi témoignage pour Dieu à qui l'on veut demeurer fidèle. Cela relève de la vertu de charité. À propos de la troisième condition, saint Thomas se pose la question. Est-ce que la foi seule fait les martyrs? Et il donne cette précision. Il ne faut pas oublier que la foi comporte non seulement la croyance intérieure, mais aussi la profession extérieure, qui se fait non seulement par des paroles, par lesquelles on confesse la foi, mais aussi par les actes par lesquels on prouve qu'on a la foi. Il s'ensuit, conclut saint Thomas, que les œuvres de toutes les vertus, si elles sont faites pour Dieu, sont comme autant de professions de la foi qui nous révèlent que Dieu nous commande ses œuvres et qu'il veut nous en récompenser. À ce titre, elles peuvent faire des martyrs. C'est pourquoi, dit saint Thomas, l'Église célèbre le martyr de saint Jean-Baptiste qui souffrit la mort non pour n'avoir pas voulu renier la foi, mais pour avoir condamné l'adultère. Le martyr rend témoignage à Dieu, à qui l'on veut demeurer fidèle. C'est au baptême que nous avons promis fidélité à Jésus-Christ pour toujours et renoncer à Satan, à ses séductions et à ses œuvres. Ces promesses du baptême, nous les avons renouvelées solennellement lors de notre profession de foi. Et nous les renouvelons publiquement chaque année au cours de la vigile pascale. Cette année, vous en avez été empêchés par le premier confinement. Ces promesses sont pour le baptisé un engagement grave et Dieu peut nous demander d'y être fidèles au prix de notre vie. Pour cela, nous avons besoin de la vertu de force, renforcée par le don de force. La vertu de force, quand elle est parfaite en nous, nous rend fermes dans l'intention de ne jamais céder au mal, même sous la menace de perdre la vie. Mais quand l'énergie à fournir dépasse la limite que nous pouvons humainement fournir, nous avons besoin d'être soutenus par le don de force. Cette intervention du don de force se remarque ostensiblement dans la plupart des martyrs. On ne s'improvise pas martyr. Il est un don de Dieu. Mais ce don est donné parce qu'il y a eu une préparation dans les mois, les années qui ont précédé. Alors, illustrons dans un deuxième point cela par l'exemple du grand martyr du Japon qui eut lieu le 10 septembre 1622 à Nagasaki. Le bienheureux François Morales et ses compagnons dominicains reçurent la mission en 1602 d'évangéliser le Japon. À cette époque, l'archipel du Japon était constitué de plusieurs petits royaumes gouvernés par un roi sous la dépendance de l'empereur du Japon. C'est par d'ardentes supplications à Notre-Dame du Rosaire, jointe à une vie pauvre et austère, qu'ils convertirent les païens de plusieurs royaumes et se rendirent les rois favorables. Nos missionnaires dominicains fuyaient d'un royaume à un autre quand les rois, sous l'influence des bonzes, devenaient hostiles à la prédication de l'Évangile. En 1609, le père François Morales vint avec tous ses chrétiens se réfugier à Nangasaki, parce que les endroits où il prêchait étaient persécutés. Grâce à la bienveillance du roi de ce royaume, la chrétienté s'accrut considérablement, renforcée par les réfugiés des autres royaumes. En 1614, 5 ans plus tard, les choses vont changer. L'empereur du Japon, sous l'influence d'un hérétique anglais, voulut porter un coup mortel au christianisme. Il ordonna de renvoyer à Manille tous les missionnaires du Japon, de détruire toutes les églises, de brûler tous les objets de piété, et enfin de contraindre, sous peine de mort, les fidèles à adorer les idoles. Les missionnaires furent obligés de s'embarquer sur un bateau et de partir pour Manille. Mais quand le bateau prit un peu le large, des pêcheurs, des barques de chrétiens, finalement les gardes ayant cessé un peu leur vigilance, se sont approchés du bateau et 37 missionnaires, dont 7 pères dominicains et 6 pères franciscains, purent revenir clandestinement au Japon pour venir soutenir les fidèles. À Nangasaki, le père dominicain Thomas du Saint-Esprit, vicaire provincial, se distinguait par son zèle à encourager les fidèles. À tous, il inspirait un sérieux exercice de la pénitence chrétienne, afin qu'ils apprissent à être martyrs avant l'heure du martyr. Ils se mortifiaient effectivement en tout, jeûnaient, priaient, s'approchaient fréquemment des sacrements. Pour s'animer à la constance, les chrétiens établirent entre eux la confrérie des martyrs. Elle consistait en plusieurs pratiques pieuses et dans un engagement écrit de souffrir tous les tourments et la mort plutôt que de manquer à la foi en Jésus-Christ. Il y avait une congrégation pour les hommes, une congrégation pour les femmes et une pour les enfants de 13 à 14 ans. On organisa bien sûr des processions publiques afin de fléchir la miséricorde divine en faveur des persécuteurs, d'obtenir du ciel, avec la force de souffrir, la grâce de triompher. Ces processions rassemblaient 8 à 10 000 chrétiens en bon ordre, plus que le pèlerinage de Chartres-Paris, alternant la récitation du rosaire avec le chant des psaumes et des litanies. À partir de 1616, les missionnaires vont être arrêtés les uns après les autres et mis en prison dans de très dures conditions. Les prisons remplies de chrétiens et de missionnaires devenaient des couvents où l'on pratiquait l'oraison, chantait l'office divin et on s'exerçait à la pénitence. Dieu accordait à ces âmes des grâces de consolation extraordinaires. Ces paroles du père Thomas du Saint-Esprit résument les sentiments des autres pères. On ne saurait croire quel est notre épuisement et tout ce que nous avons à souffrir, mais nous acceptons tout avec bonheur et avec joie. Nous désirons plus ardemment la croix et les supplices que les ambitieux ne convoitent les plus hautes dignités. Quand je pense que peut-être nous sortirons d'ici pour aller au martyr, je tressaille de joie et je ne peux contenir les élans de mon cœur. Les cœurs étaient préparés. Dieu allait procéder à la moisson. Le 10 septembre 1622, donc certains pères sont emprisonnés depuis 5 ans, d'autres depuis 3 ans, d'autres depuis 1 an seulement. Nangasaki va s'illustrer par 52 martyrs appartenant à 3 ordres religieux différents et à toutes les classes de la société. la mise en scène fut grandiose. Sur une colline surplombant le port et formant comme un amphithéâtre, on avait dressé 25 grands poteaux pour ceux qui devaient mourir par le feu. Les autres devaient être décapités au sabre. Les prisonniers formaient une procession entourée d'un corps de garde qui contenait une foule de 30 à 40 000 chrétiens, sans compter les païens. Une tertiaire dominicaine marchait en tête, entonnant un cantique que ses compagnes chantèrent avec un tel enthousiasme que la foule était attendrie jusqu'aux larmes. Parmi les laïcs se trouvaient les prieurs de la confrérie du Rosaire et celle du Saint-Nom de Jésus, ainsi que des tertiaires de l'ordre de Saint-François. Quand l'officier supérieur représentant l'empereur parut à la tribune richement ornée, il ordonna l'exécution. Les confesseurs de la foi firent preuve d'une fermeté allant jusqu'à l'héroïsme. Un exemple parmi beaucoup d'autres, le père Joseph de Saint-Hyacinthe prêchait au milieu des flammes, exhortant les fidèles à persévérer dans la foi et la pratique du Saint-Rosaire. À force de prêcher, on les brûlait à petit feu, c'est-à-dire quand ça brûlait trop fort, on retirait le feu pour qu'ils puissent être brûlés pendant plusieurs heures, si possible. Donc au milieu des flammes, il avait soif, bien sûr, et au Japon, il paraît que c'est une coutume de lever sa tasse, c'est une coutume japonaise, Shinichi pourra nous dire. Et donc ce père, assoiffé, bien sûr, par la prédication au milieu des flammes, demande à boire. Alors une pieuse japonaise s'approche et lui tend une tasse, selon la coutume du pays, et il va élever cette tasse avec beaucoup de dignité au milieu des flammes. Il brûle. Et boire, selon la coutume du pays. Et cela va beaucoup impressionner les gens du pays. Dieu manifesta par un prodige extraordinaire la gloire des confesseurs de la foi. Pendant la nuit, donc tout le monde a été tué, les gardes sont là pour surveiller les corps afin que les chrétiens ne viennent pas chercher des reliques. Les gardes ainsi que des marins qui sont en train de pêcher en rade virent les corps des martyrs se reconstituer et former une procession avec des flambeaux en chantant des cantiques. Une fois cette procession surnaturelle terminée, à la fin de la nuit, les corps retrouvèrent leur état initial. L'officier supérieur défendit aux gardes d'en parler sous peine de mort. Alors mes frères, chers frères, que pouvons-nous conclure? Quelle résolution pouvons-nous tirer de ces réflexions? Il faut nous préparer comme ces chrétiens du Japon en pratiquant dès maintenant les vertus nécessaires à un martyr. La foi, la fidélité aimante à nos promesses du baptême, en vivant de plus en plus unis et dociles à la Sainte Trinité présente dans nos âmes, en nous exerçant à la vertu de force, par la mortification, par le renoncement, par des pénitences, dans les petites choses d'abord, en récitant avec dévotion le chapelet, en vivant de plus en plus de ces mystères, en recourant fréquemment au sacrement, quand c'est possible, et en vivant notre consécration à la très sainte Vierge Marie, afin que son cœur immaculé soit notre refuge au milieu des difficultés, afin que nous y apprenions l'amour de plus en plus fidèle, de plus en plus fort de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.